des personnels non grévistes.
Qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
Au magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys have a comedy of errors. You
bellow what your fellows get playing at the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. Eh bien oui, c'est l'été, mais vous avez quand même droit au Canu Info. Ceci dit, ça risque d'être un peu un mini Canu Info, vu que je suis tout seul ce soir. Mais ça va pas m'empêcher de mini Canu Info, mais maxi intérêt, parce qu'on va avoir en particulier une longue entretien avec un camarade qui est actuellement en Égypte et qui est un fin et ancien connaisseur de l'Égypte et qui nous racontera un peu ce qui se passe, en particulier depuis une semaine. Et puis on va pas s'arrêter là, parce qu'on va aussi causer de la fuite radioactive grave à Fukushima cette fois-ci. Le grave est officiel. On reviendra aussi sur la mutinerie à la maison d'arrêt de Blois, c'était avant-hier. Et puis encore des petits trucs sur Sonia Zuder qui est en Allemagne et qui risque de passer du temps en tôle, encore beaucoup de temps en tôle, alors qu'elle commence à être vieille, et que les faits qui lui sont reprochés se sont passés en 77 et 78. Et voilà, en tout cas, elle faisait partie des cellules révolutionnaires à cette époque. Et enfin, on sera un petit peu on reviendra aussi un petit peu sur cette militante des Femen qui s'appelle Aminas Bouy et qui est aujourd'hui une ex militante des Femen, puisque elle ne veut pas que son nom soit associé à une organisation islamophobe, c'est elle qui le dit. Allez, on va commencer par Fukushima. Donc, pour la première fois depuis l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima, c'était, rappelez-vous, en mars 2011, une fuite radioactive a été classée comme accident grave. Et pour la première fois, c'est TEPCO, l'entreprise qui gérait la centrale, qui a reconnu l'ampleur du désastre et qui a aussi admis avoir menti sur la gravité. L'autorité de régulation nucléaire japonaise a classé niveau 3 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. La gravité de l'accident, cette échelle, donc l'échelle INES, elle va de 0 à 7 et un accident de niveau 3, c'était pas arrivé du coup en dehors de l'explosion de Fukushima, mais c'était pas arrivé autrement dans le monde entier depuis 2008. La compagnie TEPCO, qui essaye de pomper l'eau radioactive qui est répandue en flaques dans le sol de la centrale, a finalement, elle a paniqué en mesurant la radioactivité des flaques en question, puisque à 50 cm au-dessus des flaques, les mesures de radioactivité atteignaient environ 100 millisieverts par heure. Alors bien sûr, ça ne vous dit pas grand-chose. On a une petite indication dans la mesure où quelqu'un qui se tiendrait à 50 cm au-dessus pendant une heure recevrait 5 fois la dose maximale qui est comme autorisée par les règlements pour un travailleur du nucléaire en un an. Donc là, en une heure, il prend 5 fois la dose maximale autorisée pour un an. C'est quand même assez balèze. Et du coup, ça serait plutôt 100 fois la dose d'exposition annuelle pour un citoyen lambda. Et donc voilà, c'est plus ou moins 300 tonnes d'eau radioactive qui ont dégouliné en flaques et que les murets auraient, donc des murets qui ont été construits après l'accident, là, que ces murets auraient dû contenir, mais en fait pas du tout. Et si ça se trouve, c'est juste des histoires de robinets qui auraient été laissés ouverts à un endroit quelque part dans la centrale, mais c'est un endroit où aucun être humain peut aller pour fermer les robinets. Alors on comprend pas bien comment il n'y a pas moyen de les fermer en amont. Mes infos sont parcellaires. Il faut bien dire que, et comme on s'en rendra compte plus tard à propos d'autres infos, il faut bien dire qu'on est au mois d'août et que les réseaux militants, comme tout le monde, sont en vacances et du coup, s'informer devient un petit peu plus compliqué. Mais heureusement, le Canu Info du mercredi tient bon. Enfin, tient bon. En tout cas, cette semaine. Voilà, et quoi d'autre ? Eh bien, l'eau continue du coup à Fukushima de se déverser dans l'océan à plus ou moins 1000 tonnes par jour. Donc ça passe par le souterrain. Donc l'eau, la fameuse eau, hein, celle qui est ultra radioactive, voilà, elle sort dans l'océan. Bon, bah écoutez, l'océan c'est grand, hein, on va essayer de compter là-dessus. Ah, zut. Attendez. Ah bah oui, bah c'est ça, hein, le problème de tout seul, c'est que on est tout seul pour parler, pour assurer la technique, pour faire toutes les infos les unes à la suite des autres. C'est parfois extrêmement prenant. Attendez, je vais vous remettre un petit bout de musique pour entre les deux infos. Et bien voilà, les réseaux militants toujours en vacances, ce qui fait que pour vous parler de cette mutinerie à la prison de Blois, et ben c'est l'AFP, hein, qu'est-ce que vous voulez, alors vous allez voir, c'est pas passionnant ce qu'ils en disent, mais dans tous les cas, ça vaut le coup de le savoir, même si c'est une info légère, parcellaire, extrêmement extérieure, et beaucoup plus froide que ce qu'on aurait souhaité pour notre part. Donc une soixantaine de détenus a saccagé un secteur de la prison, c'était lundi, et c'était après la découverte de la mort d'un prisonnier lundi matin. La mutinerie a duré 4 heures, à la maison d'arrêt de Blois. Vers 10h30 après la promenade, une soixantaine de détenus a commencé à saccager un secteur de la prison. Les mutins ont été maîtrisés en début d'après-midi. Et donc c'est... voilà. Selon les médecins, le prisonnier qui est mort serait mort d'une rupture d'anévrisme. Les co-détenus ont contesté ce diagnostic. Et ils ont d'abord refusé de remonter de la promenade, et puis ils sont entrés en force dans des endroits où ils sont censés pas aller. Et ils ont tout pété, quoi. Donc ils ont commis des actes de vandalisme en saccageant des équipements. Alors bien sûr, hein, c'est l'AFP, donc on n'a pas vraiment d'interview des détenus, on n'a que l'avis du secrétaire national de FO pénitentiaire. Le soulèvement a pris fin vers 14h20 suite à l'intervention des IRIS, donc les équipes régionales d'intervention et de sécurité. Vous savez, c'est ces gens qui interviennent en cas de mutinerie dans les prisons, qui sont des espèces de robocop entièrement masqués, hein, c'est complètement impossible de voir leur visage, qui sont extrêmement protégés de partout et qui sont connus pour être surtout ultra violents. Wiser the man that knows a fool. Tempt not a desperate man with a jewel. I take from Peter to go and pay fool. Some rise by sinning by virtue fool. What have you made if you gain the whole world? But sell your own soul for the price of a pole. The world is more. Allez où ? Eh ben, on part en Égypte et alors voilà. Il est important de savoir que cette interview a été enregistrée vers 15h. Et pas plus tard dans l'après-midi. Et je vous expliquerai après l'interview pourquoi c'est important de savoir ça.
Toi Mathieu, tu étais déjà en Égypte le 14 août, donc au moment où il y a eu le fameux assaut de l'armée contre les sit-in des frères musulmans. C'était il y a une semaine. Est-ce qu'on se lancerait dans raconter un peu cette semaine, en commençant bien sûr par raconter mercredi dernier ?
Pour le 14 août au matin, il y a eu un assaut des forces de l'ordre égyptiennes. Quand je dis forces de l'ordre, ce jour-là, c'était plutôt la police. contre deux places qui étaient occupées au Caire, une à Madinat Nasr et une à Giza, donc c'est plutôt dans la banlieue du Caire. Et c'est des places qui étaient occupées depuis plusieurs semaines par des partisans, principalement des frères musulmans, en tout cas des personnes qui réclamaient que l'ancien président Morsi soit remis au pouvoir. L'évacuation, elle s'est passée au début, en fait, plutôt de manière pas trop violente, et puis assez rapidement, ça a dégénéré, c'est parti en affrontement armé. Et voilà, du coup, il y a eu des affrontements toute la journée entre, du coup, des manifestants, on va dire frères musulmans pour résumer, et la police. Donc certains des manifestants étaient armés, du coup les affrontements ont été très sanglants, puisque forcément quand il y a des affrontements armés, ça fait beaucoup de morts. On estime qu'il y a eu, on va dire, les chiffres officiels, c'est 900 morts depuis mercredi dernier. Voilà, et du coup toute la journée, un peu la situation au Caire, elle a été assez tendue, et en fait dans la journée il y a eu aussi donc des réactions en dehors du Caire. Donc déjà, les trains ont été bloqués, les trains entrant et sortant du Caire, pour éviter que les gens des autres provinces arrivent au Caire en soutien. Mais du coup, ça a fait que dans les autres provinces, en fait, il y a eu plein de rassemblements de soutien, et aussi plein notamment d'incendies ou d'attaques contre des églises coptes ou contre des commerces coptes ou des écoles coptes, enfin contre voilà, des représentations de la communauté copte. Il y a eu une soixantaine d'églises qui ont été attaquées dans les 2-3 jours qui ont suivi. Et du coup, il y a commencé à y avoir aussi des affrontements armés dans différentes villes du pays. Donc, il y a eu assez rapidement l'état d'urgence qui a été décrété, un couvre-feu qui a été instauré. Ensuite, le jeudi, il y a eu encore quelques attaques et manifs. Le vendredi, c'est un jour traditionnel de manifestation, puisque c'est un jour férié, c'est le jour de la prière en Égypte, là. Et du coup, là, il y a eu des grosses manifs de frères musulmans un peu partout dans le pays, qui ont aussi été réprimés. Et en fait, il faut savoir que en fait, les manifs frères musulmans, il y a toujours des armes qui circulent dedans, même si la plupart des manifestants ne sont pas armés, mais il y a des manifestants armés. Du coup, ça implique forcément que face à des manifestants armés, les forces de l'ordre vont répondre aussi par les armes. Du coup, ça fait des morts. Et notamment, le vendredi, donc, il y a un millier de manifestants qui sont réfugiés dans la mosquée Al-Fatr, qui est une mosquée sur la place Ramsès, qui est une des places principales du Caire. Et du coup, ils sont restés cloîtrés là-dedans pendant toute une journée. Ils ont été expulsés finalement le samedi, donc le lendemain. Et pour le coup, cette expulsion, elle s'est passée. On pouvait s'attendre à un nouveau bain de sang. Et en fait, à ma connaissance, il n'y a pas eu de blessés à ce moment-là, même s'il y a eu une fois de plus des affrontements armés entre des snipers qui étaient dans le minaret de la mosquée et les forces de l'ordre. En fait, l'évacuation, elle s'est passée de manière plutôt pas trop violente. C'est-à-dire qu'il y a eu des tirs de gaz lacrymogène, mais il n'y a pas eu de blessés ou de morts à ce moment-là. Et voilà, depuis, ça s'est plutôt calmé en termes d'affrontements, mais du coup, il y a une répression hyper forte des frères musulmans qui s'abat sur eux. Donc, il y a eu la plupart des responsables frères musulmans en Égypte qui ont été arrêtés pour incitation au meurtre ou incitation au désordre, etc. Puis, il y a El-Baradei qui était un des leaders du nouveau gouvernement post-Morsi, qui a démissionné pour s'opposer aux violences, puisque lui, il était plutôt partisan de la solution de ce qu'il pense être une solution non violente pour régler cette situation.
Pourquoi tu dis ce qu'il pense être une solution non violente ?
Parce que je pense qu'en fait, il n'y avait pas de solution non violente en vrai. En fait, dans le sit-in de Giza, dans les deux sit-in, en fait, ça faisait plusieurs semaines que les frères musulmans amassaient des armes, qu'il y a des groupes terroristes en fait, dans le Sinaï qui font des attentats depuis que Morsi a été destitué, et les frères musulmans ont annoncé que les attentats continueraient tant que Morsi ne serait pas réinstauré. Et du coup, moi, je pense qu'à un moment, c'est pas possible d'avoir des solutions non violentes face à des gens qui sont armés et qui appellent au djihad, en fait, et qui sont prêts à mourir pour leurs idées. Je vois pas trop comment c'est possible de répondre de manière non violente à ça, malheureusement. Du coup, par rapport à ça, il y a eu quand même tout un tas de réactions de la communauté internationale, et notamment les pays occidentaux et les États-Unis, qui sont dans une situation que personne ne comprend en Égypte et que tout le monde critiques, enfin là les critiques sont hyper fortes par rapport aux régimes occidentaux qui soutiennent les frères musulmans d'une manière qui peut paraître incompréhensible, même si on comprend bien qu'ils ont des intérêts derrière, et certains pays arabes, donc l'Arabie Saoudite et certains autres états du Golfe, je crois les Émirats Arabes Unis et le Qatar et peut-être le Koweït aussi soutiennent plutôt le gouvernement égyptien. Les Coptes sont la cible de frères musulmans depuis déjà longtemps, ça date pas de la semaine dernière. Depuis le début de la révolution, un peu les groupes islamistes, que ce soit frères musulmans ou salafistes, s'en prennent régulièrement aux Coptes. Même l'armée, d'ailleurs, on est pris au copte à un moment. En 2012, il y a eu un massacre de centaines de coptes qui ont été massacrés par l'armée, là. Et disons que dans l'idéologie des frères musulmans, c'est un truc de... Là, en fait, les frères musulmans, actuellement, ils tiennent un discours, on va dire... certains disent qu'ils montrent leur vrai visage, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté les discours un peu policés et démocratiques et qu'ils ont un discours vraiment de « ils appellent au djihad et à la guerre contre tous les infidèles ». Et du coup, les infidèles, c'est aussi bien les chrétiens que les musulmans modérés. Et du coup, oui, ils avaient prévenu que si... s'il y avait de la répression des deux sit-in qui étaient sur les places occupées, là, ils s'en prendraient à la communauté copte parce qu'ils considèrent que la communauté copte fait partie de ce qu'ils appellent le complot anti-islamique en Égypte et que donc ils ont participé, ils ont notamment participé pour beaucoup au mouvement Tamarod qui a vu la destitution de Morsi et du coup en représailles de ça, ils s'en prennent un peu plein la gueule par les frères musulmans, mais c'est sur un fond de les frères musulmans s'en prennent à tout ce qui n'est pas frères musulmans en fait, et du coup notamment les coptes parce qu'ils sont chrétiens quoi. Alors les frères musulmans c'est une confrérie qui a été fondée en 1928 par Hassan al-Banna et qui, depuis 1928, en fait, a toujours eu pour objectif d'arriver au pouvoir. La différence entre les frères musulmans et salafistes, c'est que les frères musulmans veulent imposer un État islamique par le haut, c'est-à-dire gagner les institutions politiques pour pouvoir imposer l'ordre islamique, alors que les salafistes, eux, veulent d'abord gagner les masses pour ensuite faire que l'État soit islamique de fait. Donc c'est une des principales différences théoriques entre ces deux groupes. Du coup, leur objectif, ça a toujours été de prendre le pouvoir pour donc imposer ce qu'ils estiment être l'ordre islamique qu'ils veulent imposer. C'est le principal groupe politique organisé en Égypte, puisqu'ils existent depuis 80 ans. Ils ont souvent eu des relations compliquées avec le pouvoir, et notamment avec l'armée. À des moments, ils ont été alliés, par exemple, dans les moments de libération nationale contre la colonisation anglaise. Puis ils se sont fait réprimer sous Nasser. Dans les années 60, il y en a beaucoup qui ont été emprisonnés, torturés ou exécutés. Et du coup, des années 60, il y a eu tout un développement du coup, d'un islam un peu plus radical, à partir notamment donc, de Saïd Qutb, qui était issu des frères musulmans et qui a eu, du coup, dans l'expérience de la clandestinité, des camps de concentration, tout ça, des critiques plus radicales sur le régime égyptien, qui ensuite donc, ont donné tous les mouvements qu'on connaît actuellement, Al-Qaïda, les Gamars Islamia, le Djihad islamique et tout ça. Du coup, tous ces mouvements-là, en fait, sont issus des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est le premier parti islamiste de l'histoire. C'est le premier parti à s'être revendiqué d'un islam politique. Du coup, tous les partis islamistes du monde sont issus de cette mouvance-là. Du coup, ce qui explique que ce soit le groupe le plus important et le plus organisé en Égypte. Sous Moubarak, en fait, ils avaient un statut qu'on disait interdit mais toléré, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'existence légale, mais ils participaient quand même aux jeux politiques, et notamment, ils avaient des élus au Parlement depuis 2005. Et du coup, c'est une des raisons qui explique pourquoi ils ont gagné les élections en 2011 et 2012, c'est que c'était le seul groupe politique en fait, qui avait suffisamment d'appui populaire dans toutes les villes du pays pour prétendre à gérer l'État, puisque les autres groupes qui sont issus de la Révolution ne sont pas du tout aussi populaires et aussi organisés et aussi nombreux. Et du coup, il y a toujours eu une espèce de double discours des frères musulmans. Ils ont eu, depuis les années 80, un discours présentable par rapport aux critères occidentaux, c'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils étaient pour la démocratie, rentrer dans le jeu démocratique, accéder au pouvoir de manière démocratique, et qu'ils avaient des discours sur qu'ils acceptaient les coptes comme des citoyens à part entière, et les femmes, et tout ça. Mais il y a quand même toujours eu ces liens entre les frères musulmans, donc qui étaient un peu la façade respectable, et les groupes islamistes plus violents. Avant, là maintenant, on ne savait pas trop à quel point ces liens ils existaient vraiment ou pas. Là maintenant, c'est clair que en fait, ces liens ils existent complètement, que depuis que Morsi est au pouvoir, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il y a des vagues d'attentats en Égypte et quand est-ce qu'il n'y en a pas. Et du coup, maintenant, ça devient clair que oui, en fait, les liens entre les frères musulmans égyptiens, les frères musulmans dans d'autres pays et plein de groupes islamistes existent. Et voilà, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a une espèce de retournement de la population égyptienne contre eux, c'est qu'ils ont bien compris qu'en fait, c'était pas un groupe démocratique, c'était pas l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler les chrétiens démocrates en Occident, mais bien un groupe avec des visées d'imposer un islam politique hardcore en Égypte et qui avait des liens avec le terrorisme.
Ya Obama, 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 ya Obama
En fait, les Frères Musulmans, c'est un groupe qui s'est construit aussi par parce qu'ils ont beaucoup de programmes sociaux, ils ont plein d'hôpitaux et d'écoles et de choses comme ça qui font que, en fait, c'est aussi ça qui est à la base de leur popularité. Mais c'est plutôt ce qu'on appelle un parti de cadre, c'est-à-dire que c'est plutôt des classes moyennes qui font partie des Frères Musulmans. Du coup, il y a beaucoup de classes moyennes qui sont dans les sit-ins. Et après, il y a aussi plein de classes plus populaires. Alors, certains disent qu'ils ont été achetés. En fait, on a des témoignages de personnes qui disent qu'elles étaient payées 200 ou 400 livres par jour pour aller participer au sit-in. Il y a des personnes aussi qui ont dit qu'il y a des personnes qui étaient prises en otage, des passants qui passaient à proximité des camps et qui étaient pris de force dans les camps et même torturés et tout ça. Les Frères Musulmans, c'est pas un truc, c'est pas une classe sociale. En fait, c'est plein de gens de plein de classes sociales différentes qui participent à ça. Les cadres des Frères Musulmans, c'est des ingénieurs, c'est des docteurs, c'est des gens qui ont fait des études aux États-Unis. Du coup, c'est pas un parti populiste ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est un parti qui est représenté dans l'ensemble des classes sociales du pays, quoi. Il y a eu 2-3 jours un peu tendus du coup entre on va dire entre mercredi et samedi où du coup il y a eu l'imposition du couvre-feu, les militaires qui sont descendus dans la rue, des affrontements violents pendant plusieurs jours dans plusieurs villes et tout ça. Depuis dimanche plutôt on sent que la situation s'apaise, là la vie au Caire elle a repris son cours, tous les commerces sont rouverts, il y a à nouveau des embouteillages, les gens sortent, enfin la vie a repris son cours à part que donc il y a toujours le couvre-feu donc de 7h du soir à 6h du matin et par exemple la place Tahrir est fermée et il y a des chars et des militaires qui sont omniprésents de partout, mais ça n'empêche pas que les gens continuent à vivre leur vie normalement quoi depuis quelques jours. Et pour ce qui est de est-ce que les révolutionnaires croient toujours en la révolution, ben en fait oui, parce que pour eux c'est que la suite. En fait pour eux ce qui se passe c'est pas du tout un truc contre la révolution, au contraire ce qui se passe c'est d'empêcher que un groupe confisque la révolution pour en faire autre chose, et que là pour la majorité des Égyptiens et beaucoup de gens qui se définissent comme révolutionnaires, ce qui se passe c'était vraiment continuer la révolution en faisant en sorte que les idéaux de démocratie, de liberté, de justice sociale et tout ça, ils continuent de pouvoir exister. Et pour beaucoup de révolutionnaires, en fait, les Frères Musulmans c'était les ennemis de la révolution là de manière claire, et du coup il fallait s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et du coup c'est plutôt les gens sont contents en fait de ce qui se passe, ils sont soulagés de voir que les Frères Musulmans sont exclus du jeu politique au moins sur le court terme, même si maintenant là il y a des préoccupations de bon bah comment ça va évoluer, parce que, du coup il y a quand même les militaires qui exercent un fort pouvoir, il y a encore l'état d'urgence et les couvre-feux qui ont été instaurés, du coup là l'inquiétude c'est plus de savoir comment ça va évoluer, mais en tout cas les gens ne critiquent pas le fait d'avoir mis les Frères Musulmans de côté, même s'il y a des gens qui critiquent la répression sanglante et qui disent que peut-être ça aurait été possible que ce soit moins violent. Les gens soutiennent encore le régime militaire. Il faut savoir que par exemple le couvre-feu il est à peu près respecté, alors qu'il y a eu d'autres moments quand le couvre-feu était imposé pour empêcher des épisodes révolutionnaires, les gens ne respectaient pas du tout le couvre-feu, ils en avaient rien à foutre. Là plutôt les gens jouent le jeu, c'est-à-dire que pendant le couvre-feu les gens soit restent chez eux ou au moins restent dans leur quartier, et parce que c'est un truc de dire en fait c'est on est prêt à soutenir l'armée pour le moment dans sa lutte contre le terrorisme islamique, comme ils disent. Pour le moment, les militaires bénéficient d'un certain prestige et les gens sont prêts à suivre l'armée égyptienne. Il faut savoir qu'aussi l'armée égyptienne, elle a changé de dirigeant depuis l'année dernière, et du coup ça fait que si les gens haïssaient l'ancienne direction, plutôt là le nouveau général en chef, plutôt il est adoré par certaines personnes et en tout cas respecté par beaucoup. Et du coup, oui, plutôt pour le moment, les gens acceptent cette situation, même si du coup, on attend de voir. Là, il y a eu quelques signaux dans les jours qui se sont passés, qui ont été un peu inquiétants. Par exemple, il y avait une rumeur comme peut-être Moubarak sortirait de prison bientôt. On ne sait pas jusqu'à quand le couvre-feu va être en vigueur. Du coup, ça, c'est des signes sur lesquels les gens restent vigilants, mais pour le moment, il n'y a pas encore une forte campagne pour critiquer le régime militaire, quoi. Déteste vraiment fortement les frères musulmans. Il y a un truc, c'est, je veux dire, tout le monde en parle dans le métro, dans la rue. Moi, tous mes amis dans toute l'Égypte, ils me disent ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Ils ont détruit le pays, mais qu'est-ce qu'ils croient et tout ça. Du coup, ça, c'est sûr qu'il y a un clivage hyper fort entre la majorité des Égyptiens et les gens qui soutiennent les frères musulmans. Ça s'embrouille sur Facebook. Enfin, moi, j'ai plein d'amis qui ont arrêté des amitiés, qui ont bloqué des gens, qui ne veulent plus communiquer entre eux et tout ça parce que sur cette question-là, ça s'est embrouillé. Et après, est-ce que les gens seront mobilisables contre l'armée? Bah, je pense que ça dépend. Je pense que c'est, par exemple, si Moubarak sort de prison, c'est possible qu'il y ait des gens qui réagissent quand même. Après, vu qu'il y a toujours l'état d'urgence et le couvre-feu, c'est peut-être que ça va empêcher justement qu'il y ait des mobilisations massives dans les jours à venir. Mais bon, ça, c'est, on ne peut pas vraiment savoir comment ça va se passer, en fait. Les frères musulmans, quand même, aux dernières estimations, ils étaient peut-être 2 millions de membres. Donc c'est quand même assez important, même si, bon, ça vaut pas... En Égypte, il y a 90 millions d'habitants, quoi. Pour le moment, l'organisation frères musulmans, elle existe encore. Ah oui, ce que j'ai pas dit non plus, c'était qu'il y avait une proposition à l'étude du gouvernement de dissoudre la confrérie. Il faut savoir que la confrérie, elle n'a pas de statut légal, en fait. Il y a un parti politique qui s'appelle le Parti de la Justice et de la Liberté, qui est issu des frères musulmans, qui est la représentation politique des frères musulmans. Il y a des ONG qui sont issus des frères musulmans, mais la confrérie en tant que telle, elle n'a pas un statut officiel. Et du coup, il y avait l'idée de se dire, ben, en fait, il faut dissoudre ce groupe qui n'a pas de statut officiel. La plupart des dirigeants ont été emprisonnés, mais par exemple, le guide suprême, donc il y a le grand chef des frères musulmans, il a été emprisonné, mais aussitôt, il y a eu un nouveau guide suprême par intérim qui a été nommé. Du coup, l'organisation frères musulmans, elle existe toujours. Et aussi, c'est une organisation internationale. Du coup, les frères musulmans, ils sont présents dans la plupart des pays du monde. Et du coup, tout ça, ça existe encore. Et pour le moment, ça n'a pas encore été détruit, même s'il y a eu un fort coup qui a été porté à la confrérie. Mais ça continue d'exister. Pour le moment, on n'en est pas au démantèlement de toute l'organisation, quoi. Disons, ça fait 2-3 jours que les frères musulmans appellent à des manifs et qu'ils n'y arrivent pas. Clairement, je pense que la répression, ça les a bien calmés. Du coup, il y a très, très, très peu de manifs. Il y a quelques dizaines de personnes qui manifestent comme ça de manière impromptue, mais il n'y a pas de grosses manifestations. Là, il y a des appels à des grosses manifestations pour vendredi. Du coup, on verra ce que ça donne. En tout cas, ce que à peu près tout le monde s'accorde à dire, c'est que de manière sûre, il va y avoir une recrudescence d'attentats et d'actes terroristes en Égypte dans les semaines, mois et années qui viennent. Puisque là, en fait, ce que ça montre, ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, les frères musulmans, ils n'arriveront pas au pouvoir par des manières démocratiques. Et du coup, ben, probablement, les franges plus armées, terroristes et radicales vont se dire, mais en fait, puisqu'on n'arrive pas au pouvoir par des moyens démocratiques, eh ben, on va le faire par d'autres moyens. Et du coup, voilà, beaucoup de gens comparent la situation actuelle avec les années 50-60, où voilà, là, les frères musulmans étaient emprisonnés et ça a donné plein de mouvements terroristes. Il y a déjà eu des attentats islamistes en Égypte dans les années 90 et plusieurs personnes disent que probablement ça va être à nouveau le cas dans les années qui viennent, quoi. Là, en fait, ce qui se passe en Égypte, c'est hyper intéressant d'un point de vue diplomatique. Que du coup, là, il y a l'Europe et les États-Unis qui critiquent à fond ce qui se passe en Égypte et menacent de soit de faire des sanctions ou de couper des aides qui étaient promises ou tout ça. Et ce à quoi l'Égypte répond, en fait, on s'en fout. Puisque d'une part, ce qui se passe en Égypte, en fait, c'est une affaire intérieure à l'Égypte et c'est certainement pas les États-Unis ou l'Europe qui va nous dicter notre manière de faire. Donc c'est déjà intéressant de voir que l'armée égyptienne, qui était pourtant très liée aux États-Unis pendant longtemps, là, commence à prendre son indépendance par rapport à ça. Et d'autre part, du coup, là, ce que dit le gouvernement égyptien, c'est de dire, mais en fait, vous ne croyez pas que vos pauvres, du coup, il y a 1,5 milliard qui sont donnés par les États-Unis et 5 milliards qui sont prévus par l'Union européenne, mais qui étaient déjà gelés depuis plusieurs mois. En fait, ça va. Si vous ne voulez pas nous les donner, ben, en fait, ce n'est pas grave, on se démerdera autrement, sachant que, du coup, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar et les Émirats, ont d'ores et déjà promis de donner 12 milliards d'euros, donc c'est quand même 10 fois plus que ce que promettaient les États-Unis. Et du coup, il y a clairement, l'armée a annoncé aujourd'hui que si les États-Unis continuaient à s'opposer à ce qui se passe en Égypte, eh ben, ils se rapprocheraient de la Russie. Du coup, il y a une espèce de basculement diplomatique de l'Égypte, qui était un peu la figure de proue de l'Occident dans le monde arabe, qui est en train de se détourner de l'Europe et des États-Unis pour du coup se recentrer vers le monde arabe et voir vers la Russie ou la Chine. Et du coup, ce que sentent bien aussi les États occidentaux. Et c'est pour ça qu'au début, ils condamnaient fortement ce qui se passe dans le pays. Et que là, ils font un peu machine arrière parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre leur allié stratégique. Et voilà, du coup, ça, ce sera intéressant à voir dans les temps qui viennent, les alliances diplomatiques sur cette question. Je voudrais quand même insister vraiment sur ce truc que, en fait, ce qui se passe en ce moment en Égypte, c'est vraiment pas une guerre civile comme on entend dans beaucoup de médias occidentaux, qu'il y a vraiment la majorité de la population qui soutient la répression des frères musulmans, que même s'il y a des affrontements des fois entre frères musulmans et anti-frères musulmans, en fait les frères musulmans ça reste une minorité dans le pays, qu'ils ont perdu toute légitimité. Et pareil, en fait, beaucoup de gens en Occident parlent de coup d'État, mais en fait, pour les Égyptiens, ce qui se passe, c'est pas un coup d'État, en fait. C'est parce que les Égyptiens estiment qu'ils ont donné un mandat à l'armée de débarrasser le pays des frères musulmans lors de la manif qui a abouti à la destitution de Morsi. Et du coup, pour eux, ce qui se passe, c'est pas un coup d'État, c'est juste l'armée qui, pour une fois, fait son boulot en écoutant les revendications du peuple, quoi.
مصر أم الدنيا وحتبقى قد الدنيا.
Et voilà. Alors, eh ben, écoutez, on est quand même en plein milieu de l'été. Alors, moi, je suis tout seul ici. Nous, d'habitude, pendant l'année scolaire, on aime bien se dire qu'il y a peut-être des fois 10 personnes, 12 personnes, parfois 15 personnes qui nous écoutent. Mais là, en ce moment, il ne faudrait pas que je me fasse d'illusions et penser que vous êtes plus de 2, 3 maximum à m'écouter là tout de suite. Alors, on est dans une sorte d'intimité qui fait que je peux aussi vous raconter les petits dessous. Et ben, si nous aviez à ce moment-là déjà écouté il y a 15 jours, on avait une interview du même camarade qui à ce moment-là nous parlait d'un téléphone portable en France et le son était vraiment dégueu. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que je l'interviewe avec Skype et vous avez vu, le son était magnifique. Donc sachez-le, si vous avez une interview à faire avec quelqu'un qui est loin, Skype est tout bêtement un micro posé devant des enceintes, ça va vachement mieux qu'un téléphone portable, quoi. Bref, tout ça pour dire que... Ah oui, c'est ça. L'interview avait été enregistrée, vous disais-je donc, aux alentours de 15h. Et depuis, il s'est passé plusieurs choses. D'une part, mon correspondant m'a informé par SMS que la place Tahrir, contrairement à ce qu'il disait, n'était plus fermée, qu'elle avait été rouverte. La station de métro est toujours fermée, mais on peut se balader à la surface de la place. Et surtout, il parle dans son interview de mauvais signal qui pourrait être donné sur les rapports entre l'armée et le peuple. Et dans les mauvais signaux dont il parle, c'est, il dit, si Moubarak était libéré, ça peut-être, ça serait quand même un mauvais signal. Eh bien, sachez que Moubarak sera libéré demain, et on a eu l'annonce cet après-midi après l'enregistrement de l'interview. Alors à part ça quoi? Eh ben à part ça, vous aurez remarqué que nous, d'habitude, dans ce Canu Info, on n'est pas trop amis avec Dieu, mais d'un côté, on est quand même souvent amis avec les musulmans, en particulier contre les laïcars racistes, comme on en trouve beaucoup, qui se découvrent tout d'un coup féministes, tout d'un coup ultra-laïques, etc., etc., au moment où ça leur donne une possibilité de taper sur les musulmans. Et donc là, c'est un peu rare ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui dit vraiment du mal d'une organisation musulmane. Bon, mais en l'occurrence, c'est les frères musulmans, c'est effectivement des crapules. Mais ceci dit, on va pas rester là-dessus uniquement, puisque maintenant, on va parler de cette Amina Zboui. Alors, pareil, en fait, dans ce Canu Info du mercredi, on vous a jamais tellement tenu au courant des hauts faits des fémènes. Les fémènes, vous savez, c'est femmes qui sont dans une orga, une mini-orga, hein, mais qui montrent en tout cas un certain courage en allant se balader seins nus dans des endroits où ça se fait pas tellement, généralement dans des endroits musulmans. Alors pas que, hein, elles ont aussi fait des petites actions en marge, enfin sur les aux abords de manifs homophobes au moment du bordel sur le mariage pour tous. Mais bon, voilà, elles se sont quand même beaucoup illustrées à attaquer un peu les musulmans. Ce qui fait que nous, on n'a jamais été complètement... je sais pas comment dire, il y a un côté où, d'un côté, elles nous étaient sympathiques, d'un autre côté, de voir des femmes blanches qui vont faire la leçon au reste du monde, tout le temps, ça nous met un petit peu mal à l'aise quand même. Et bien là, on a cette Amina Zboui qui, elle, a fait partie des fémènes et qui vient d'annoncer, là, c'est-à-dire, quand je dis vient de, je ne sais pas exactement, mais si ce n'était hier, c'était avant-hier, qu'elle faisait partie des fémènes et qu'elle se barre et elle dit, ouvrez les guillemets, je ne veux pas que mon nom soit associé à une organisation islamophobe. Alors plus précisément, qui est cette Amina? Eh bien Amina, elle est tunisienne, elle habite en Tunisie. Et voilà, et elle a un beau jour là, enthousiasmée par les fémènes, par tout ça là, elle a commencé par mettre sur internet une photo d'elle torse nu, donc seins nus, sur Facebook. Et puis après, toujours enthousiasmée par ce truc des fémènes, elle est allée taguer le mot fémène sur le muret d'un cimetière. À ce moment-là, elle s'est fait arrêter et elle a passé du temps en tôle. Donc il y a eu des actions des autres fémènes pour la soutenir. Le 29 mai, il y a eu trois militantes, donc étrangères, hein, bien sûr, des fémènes qui sont allées devant se mettre seins nus devant le palais de justice de Tunis. Et puis voilà, donc elles ont été arrêtées, elles ont été condamnées à une peine de 4 mois de prison avec sursis et elles se sont barrées de Tunisie. Donc c'était avec sursis, donc elles n'ont pas vraiment fait de la tôle. Alors Amina, elle, a passé 2 mois en prison, donc en prison ferme pour sa part. Elle est sortie le 1er août et donc elle a décidé de quitter le mouvement fémène parce qu'elle le juge islamophobe et ajoute-t-elle, elle trouve que son financement est douteux. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas exactement comme si elle avait été matée en prison ou comme si elle avait retourné sa veste, comme si elle était... comme si elle s'était dit oui, la décence c'est très bien ou quoi, puisque en même temps qu'elle annonce qu'elle quitte le mouvement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle publie une autre photo d'elle sur internet, toujours seins nus, cette fois-ci avec un A cerclé anarchiste, puisque ça a l'air d'être important pour elle de dire qu'elle est maintenant anarchiste. Alors voilà, il y a une interview d'elle là qui est parue, dont je peux lire des petits extraits. Hein. Donc elle dit « Je ne veux pas que mon nom soit associé à une organisation islamophobe, je n'ai pas apprécié l'action où les filles criaient... » Donc c'était une action, attention, c'était une action de soutien à elle au moment où elle était en prison. Hein. Et elle dit qu'elle n'a pas apprécié cette action où les filles criaient « Amina Akbar, Femen Akbar ». Devant, donc une action qui a eu lieu devant l'ambassade de Tunisie en France, ou le moment où elles ont brûlé le drapeau du Tawhid devant la mosquée de Paris. Alors c'est quoi le Tawhid? Eh ben, j'ai pas compris exactement, j'ai eu beau chercher un peu sur internet, en tout cas c'est un drapeau avec un truc écrit en arabe qui est un truc religieux important, et donc les fémènes sont allées cramer ce drapeau devant la mosquée de Paris. Et Amina ajoute: ça a touché beaucoup de musulmans et beaucoup de mes proches, il faut respecter la religion de chacun. Alors là, le journaliste lui dit, non mais quand même, c'était une action pour vous soutenir. Et elle dit, je les remercie de m'avoir soutenu, surtout Joséphine, mais Marguerite et Pauline qui ont dû faire de la prison ici. Il y a eu de bonnes actions, mais pas toutes. Elles auraient dû se renseigner auprès de mes avocats avant de faire certaines de ces actions. Et bon, après, elle ajoute que même les actions ne l'ont pas arrangé, puisque ça a aggravé son cas et qu'un chef d'inculpation supplémentaire a été ajouté, qui était association de malfaiteurs. Bon, ça, c'est un petit peu les... Ben, en même temps, c'est pas si étonnant que ça. C'est-à-dire que à plein de moments, ce truc d'être militant ou militante occidentale pour aller comme apporter une vision du monde d'un point de vue presque évangélique aux non-occidentaux, un peu, bien sûr, moyenâgeux, un peu aveuglés, eh ben, ça fait, entre autres, éventuellement qu'on peut mettre les pieds dans le plat, et c'est pas la première fois qu'on fout un peu dans la merde les gens qu'on veut soutenir parce qu'on prend pas assez la température de la situation avant de faire quelque chose, quoi. Bon, alors voilà, après elle raconte que oui, on la voit à nouveau sur une photo seins nus, et elle précise bien, avec le A cerclé, symbole anarchiste, c'est différent de quand elle était chez les FMN, veut-elle dire. Et puis, alors voilà, maintenant elle se rapproche d'un mouvement qui s'appelle Féminisme Attaque. Et bon, elle dit qu'elle ne sait pas si elle va y rentrer, mais elle, voilà, et elle ajoute, vous savez, pour moi, le problème en Tunisie, ce n'est pas le parti Ennahda ou la personne de Ranouchi. Le problème, c'est tout le système. Si un de ces partis d'opposition gouvernait demain, ça serait la même chose. Mon problème n'est pas de pouvoir porter une mini-jupe ici. Je sais que de toute façon, je peux le faire. Mais mon problème, c'est que demain, une femme puisse devenir présidente de la République, que dans les milieux ruraux, les femmes ne soient pas celles qui souffrent le plus. C'est-à-dire que c'est moins une histoire de symbole qu'une histoire de la réalité de ce que vivent les femmes.
Sachez que ce journal est réalisé.
Oups, ça l'a... Moi, je voulais avoir plutôt un peu de musique que le début du générique.
Et uniquement par des personnels...
Ah oh là là là, c'est difficile la vie.
Gréviste.
Eh oui, bah non, en fait, vous n'étiez pas sur France Inter. Bon, voilà, c'est pas très tard, mais on s'approche quand même de la... Ah mais si, en fait, c'est quand même quasiment moins le quart. Cool. On s'approche dans tous les cas de la fin de ce journal, puisque j'ai une toute dernière info à vous donner. Et donc, on va reparler un petit peu de Sonia Zuder et Christiane, dont je ne me souviens plus le nom de famille. Tiens, et puis il n'est pas sur le papier que j'ai sous les yeux. En tout cas, ces deux Allemands qui sont depuis 2 ans maintenant en prison en Allemagne. Alors les deux ont aujourd'hui, Sonia a 80 ans et Christiane a, me semble-t-il, un tout petit peu moins. Mais alors eux deux faisaient partie des cellules révolutionnaires, les Revolutionärzellen en Allemagne dans les années 70. Donc qui était un groupe de lutte armée, un groupe clandestin. Et alors voilà, eux ils ont disparu à la fin des années 70, et puis en fait ils ont disparu et puis ils sont allés en France, et en France ils ont réussi à vivre jusqu'au début des années 2000, à vivre complètement clandestinement, sous de fausses identités, bon des petits vieux qui vivaient en faisant de la récup et en allant la vendre au marché aux puces. Sans trop se faire remarquer. Et puis en fait, l'Allemagne qui ne lâche pas ses anciens terroristes d'extrême gauche, mais alors qui les lâche vraiment, vraiment pas. Hein. Tous ceux qui sont encore vivants, ils sont vraiment, vraiment harcelés, y compris ceux qui ont déjà passé 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans en prison. L'Allemagne continue à faire tout ce qu'elle peut pour les faire chier. Et donc ils ont la police Interpol, je pense, les a repérés, donc la police internationale les a repérés. Et là, ces deux petits vieux qui avaient tous les deux plus de 70 ans à ce moment-là, on a décidé que voilà, il fallait quand même les remettre en prison. Et donc les remettre en prison pour des actions qui ont eu lieu, rappelons-le nous bien, en 77 et 78 en particulier. Donc là, entre-temps, Christiane, qui est vraiment qui est très très malade, de toute façon, il a été extradé en brancard. Hein, il est vraiment vieux, vraiment malade. Et donc lui, ils l'ont sorti de prison, puis visiblement, il le laisse un peu tranquille. Mais Sonia, par contre, elle est en procès depuis 1 an déjà. Et son procès est basé sur 2 témoignages. Un de ces témoignages a été donné sous la torture par un gars qui aurait peut-être appartenu aux cellules révolutionnaires, mais en tout cas, lui, il a eu un accident. Un accident d'où il est sorti en ayant perdu ses deux yeux et ses deux jambes. Et là, en fait, au moment où il s'est réveillé de l'accident, il était chez les flics et les flics lui ont arraché des dépositions. Ça a duré. Oups, là, j'arrive plus à retrouver, mais ça a duré 15 jours, je crois, hein, où les flics l'ont gardé hors de toute procédure et ils lui ont fait signer des tonnes et des tonnes de déclarations à ce moment-là. Donc, autant dire que ces déclarations sont légèrement fiables. Enfin, leur fiabilité est peut-être un peu questionnable. Que de toute façon, lui, maintenant, il vient témoigner au procès et il dit tout ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est de la merde. J'ai subi la torture et du coup tout ce que j'ai déclaré, il faut pas en tenir compte. Le juge lui trouve quand même que c'est extrêmement important et le juge fait lire ses déclarations dans le procès. Et puis l'autre, c'est le fameux Hans-Joachim Klein, alors qui lui aurait fait partie de la fraction Armée Rouge et lui en réalité, il semble qu'il ait effectivement fait partie de la fraction Armée Rouge pendant quelques mois, mais après ces quelques mois, et depuis, il n'a pas arrêté de témoigner. Mais alors lui, il a tellement témoigné, il a tellement dit tout et n'importe quoi que les flics, par exemple, il n'y en a plus un qui considère ce qu'il dit comme ayant le moindre intérêt, parce qu'ils l'ont appelé le Karl May de la fraction Armée Rouge. Karl May, c'est un auteur allemand, un auteur de romans d'aventure à l'esprit extrêmement inventif. Et donc ce Hans-Joachim Klein, là, ce Karl May de la RAF, eh ben, c'est lui aussi qui témoigne contre Sonja Zuder. Puisque bien sûr il l'a rencontré, comme il a rencontré tout le monde et comme il sait tout sur la RAF depuis toujours, et donc il n'est pas du tout avare d'histoires, de témoignages, d'accusations contre tout le monde. Voilà, donc c'est sur la base de ces deux témoignages, dont chacun des deux est quand même vraiment de la merde, que Sonja se retrouve en procès. Et alors qu'est-ce qui lui est reproché exactement? Eh bien il lui est reproché une attaque contre le château de Heidelberg, et c'était sur un truc de gentrification, attention, hein, qui a pas fait le moindre blessé, hein. Une attaque contre l'entreprise KSB qui construisait des pompes pour les centrales nucléaires, donc comment dire, qui non seulement n'a pas fait le moindre blessé, mais dans tous les cas en a fait énormément moins que l'industrie du nucléaire par exemple. Et puis une attaque, attention, une attaque contre l'entreprise MAN. Les pauvres, qui se sont fait attaquer de façon tellement scandaleuse, bah pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils construisaient de l'armement pour l'Afrique du Sud. Donc, on se rappelle, hein, c'est les années 70, c'est l'époque de l'apartheid. Et donc, Sonja Zuder, eh ben, elle aurait attaqué cette entreprise qui vendait des armes au pays de l'apartheid. Bon, ben voilà, hein, ma foi, comment dire, on pourrait dire qu'elle a toute notre sympathie, tout notre soutien. Et donc là, son comité de soutien appelle à faire des actions le 14 septembre 2013, qui est le deuxième anniversaire de la date de son extradition. Donc si on a envie de faire des actions en France en visant toute représentation de l'État allemand, ou bien quoi que ce soit qui ait à voir avec la politique d'extradition, ma foi, c'est bienvenu. En sachant que dans les représentations de l'État allemand, il y a par exemple les Goethe-Instituts qui sont ces centres culturels allemands qui seraient un peu l'équivalent de l'Alliance française pour l'Allemagne. Alors attention, les centres culturels, les Goethe-Instituts, là, il ne faut pas les abîmer non plus parce que c'est des endroits classe. Mais ceci dit, les gens qui bossent dedans sont habilités à transmettre des trucs qui leur arriveraient à leurs supérieurs hiérarchiques. Voilà, et ben quoi ajouter? Ben écoutez, je vais rien ajouter du tout, hein. Et puis je vais vous laisser avec la musique des bandes continues. Mon camarade qui fait d'habitude la météo n'est pas là, donc impossible de savoir quel temps il va faire dans les prochains jours. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut encore une fois pas trop compter sur Idées Noires, l'émission de la CGA, et que vous les retrouverez plutôt à la rentrée. Et quant à moi, et ben, avec un peu de chance, je serai à nouveau là mercredi prochain. Ciao !